Dans l'histoire allemande, il y a eu des tentatives de révolution. Bon, la plus célèbre dans l'histoire allemande étant celle de 1848, qui a finalement échoué. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, la bourgeoisie, qui incarnait notamment le libéralisme, entre autres, a finalement rallié les forces autoritaires. Donc ça, c'est le premier point. Donc 1848, d'ailleurs, l'histoire allemande qualifie cette révolution de révolution échouée, gescheiterte Revolution. Et donc 1989 est en fait la première qui a débouché d'abord sur un projet politique, à savoir l'unification, mais surtout un projet politique pacifiste. C'est-à-dire que cette révolution d'en bas a eu lieu sans victimes, sans violence. Et donc pour les Allemands, c'est en effet la première révolution politique réussie venue du peuple.
Et justement, comment on peut expliquer que ces événements se soient déroulés de façon pacifique ?
Alors d'une part, il ne faut pas sous-estimer le fait que dans la société est-allemande, avant même la chute du mur, il y avait déjà des mouvements contestataires, donc ce n'est pas, une contestation qui est née du jour au lendemain. On a à l'esprit en octobre toutes ces marches, ce qu'on appelait les marches du lundi, où des gens notamment issus de l'église protestante, mais pas seulement, défilaient dans les rues, montraient quand même leur désapprobation du régime en place, et déjà bien avant, en mai 1989, à l'occasion d'élections municipales truquées en Allemagne de l'Est, il y avait eu certains citoyens qui s'étaient regroupés pour protester contre la mainmise totale de l'État communiste à l'époque sur la vie politique, sur la vie sociale. Et donc il y a dans la société allemande de l'Est, à l'époque, en 89-88, déjà, j'allais dire, un courant protestataire qui mise sur une révolution pacifiste. Déjà, le terme est dans les esprits.
Dans quelle mesure l'événement de la chute du mur de Berlin est le résultat d'un engagement européen plus large qu'une révolution nationale interne ?
Alors ça, c'est un élément tout à fait fondamental, c'est-à-dire que, surtout chez Helmut Kohl à l'époque, si on relit ses mémoires, d'ailleurs on s'en rend bien compte, dans son esprit, l'unité allemande n'était acceptable pour les autres partenaires de l'Union européenne que dans un cadre européen. C'est-à-dire que l'Allemagne réunifiée ne devait plus faire peur. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que dès son premier plan, on peut dire, même s'il a été critiqué de novembre 1989 sur une unification, même si ce n'est pas mentionné tel quel, l'unification de l'Allemagne, tout de suite il dit « mais tout cela doit avoir lieu dans un cadre européen ». Et donc c'est vrai que tout au long des années 89-90, cette pensée européenne a été intimement présente chez les dirigeants ouest-allemands notamment, parce que dans leur esprit, c'était une partie de l'évolution de l'Europe. Et on a bien vu d'ailleurs par la suite, alors sans parler de deal, parce que ça c'est historique de dire cela, il n'y a pas eu de deal entre François Mitterrand et Helmut Kohl à l'époque, mais c'est vrai que Helmut Kohl a cédé, entre guillemets, beaucoup plus sur la thématique européenne qu'il ne l'avait fait dans les années 88-89. Et on sait que ça a débouché ensuite sur la monnaie unique, l'abandon du mark par l'Allemagne, tout ça, ça a germé à cette époque.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle fut l'influence des églises dans la genèse et dans le déroulement des événements qui ont conduit à la chute du mur de Berlin ?
L'influence des églises a été très très importante. D'une part parce que les pasteurs faisaient partie du monde dissident, et ils étaient tout de même relativement épargnés par le pouvoir politique communiste est-allemand qui en avait peur, parce qu'ils savaient que c'était quand même des relais d'opinion. Donc, ils étaient à la fois contestataires, tout en étant moins inquiétés, j'allais dire, que le dissident X de la population est-allemande. Donc, ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que c'était une force. Deuxièmement, il y a eu un découplage, ça c'est très intéressant à observer, entre les élites ecclésiastiques et puis les passeurs de base, parce que l'élite ecclésiastique était davantage pour un arrangement avec le pouvoir en place d'ailleurs. Dans les années 80, c'est manifeste. Tandis que la base ecclésiastique, elle, considérait que la liberté était une valeur, qu'elle pouvait être défendue d'ailleurs au nom de la religion. Donc il y a eu un découplage très très fort. Et finalement, ce sont les pasteurs, c'est la base ecclésiastique qui l'a emporté et a su fédérer d'ailleurs autour d'elle toute une partie de la population. Et les rencontres d'ailleurs de protestation, les fameuses marches, etc., commençaient toujours à partir de lieux où se trouvait une église.
Dans quelle mesure l'ex-RDA ne fut-elle pas laissée à elle-même sans repère une fois l'euphorie retombée ?
Alors ça, c'est une vraie question de fond qui persiste d'ailleurs aujourd'hui. Alors sans doute ne pouvait-on pas faire autrement à l'époque que d'aller extrêmement vite. Helmut Kohl savait très bien que Gorbatchev était fragilisé dans son propre pays, ce qui a effectivement été démontré en 1991 lorsqu'il y a eu un putsch contre lui. Donc dans l'esprit de Helmut Kohl, il fallait aller le plus vite possible, profiter de ce que Gorbatchev soit encore au pouvoir, et du coup on a plaqué en quelque sorte un modèle social et économique ouest-allemand sur l'Allemagne de l'Est, bon, sans avoir de réflexion préalable, sans engager de dialogue avec les Allemands de l'Est sur ce système. Bon, donc ça a été quand même une vraie problématique qui pèse encore de nos jours. Même chose en ce qui concerne la Constitution. On a finalement appliqué une Constitution ouest-allemande à l'ensemble du territoire, sans vraiment tenir compte des revendications des Allemands de l'Est à l'époque. Il y avait des propositions très très intéressantes, hein, par exemple, qui disaient « mais pourquoi ne pourrait-on pas introduire d'éléments plébiscitaires dans la Constitution ?» Même chose sur le droit social. Tout cela a été balayé d'un revers de main par les dirigeants d'Allemagne de l'Ouest, toujours sous le prisme de la vitesse nécessaire pour échapper à futures turbulences en Russie, en Union soviétique de l'époque. Donc ça, c'est encore lié à l'interrogation identitaire qu'ont les Allemands de l'Est, dont une partie a encore du mal à se reconnaître dans ce modèle allemand.